apparemment sur l'ératome et pas sur le programme principal.
Non, c'est sur le programme, mais pas, enfin, pas, en tout cas pas sur le format du bâtiment.
Oui, voilà,
pas
sur le programme partie, mais sur l'ératome. Donc, c'est une société d'Elcroix, qui est Michel Branson, et qui va faire un tour d'horizon sur la sécurité.
Bonjour à toutes et à tous. Je vais déjà vous parler de, rapidement de ce que fait Enfrance. Donc, Enfrance à plusieurs métiers, notamment l'hébergeur, infogéreur, l'intégrateur, l'expertise et le conseil. Ce qui est important dans notre contexte, c'est de savoir que depuis 1997, Air France a choisi d'utiliser massivement les logiciels libres pour pouvoir fournir ses offres à ses clients. C'est à la fois un côté, on va dire, éthique, de confiance autour de tout ça. Alors, l'objectif de la présentation, donc, c'est évoquer les problèmes de sécurité autour des logiciels libres, et notamment tuer quelques mythes autour de ce qu'on peut entendre en général autour du logiciel libre.
L'actualité n'a pas trop de sens.
Comment ?
L'actualité n'a pas trop de sens. Il y a eu pas mal de mouvements.
Ah bah justement, en fait, je pense que... Enfin, vous verrez après, mais je vais pas encenser le logiciel libre. Je fais juste une digression. J'ai déjà fait une conf pour le Clusif il y a quelques années en arrière sur le sujet, et les gens avaient été surpris de ma conclusion. Et puis c'est aussi faire le tour un petit peu des outils qu'on trouve autour de la sécu. On va dire c'est peut-être ça le plus important. Lister ce qu'on peut trouver pour faire de la sécu avec du logiciel libre. Alors, on dit souvent que les logiciels libres sont plus sécuritaires, ou pas, parce que ces dernières années, on a eu de nombreuses failles qui ont été plus ou moins critiques. Je reviens très en arrière sur la fameuse faille de Debian avec le problème de random, encore à l'époque avec OpenSSL. Il y a quelques temps en arrière, on a eu des failles Java qui tombaient toutes les semaines. Il y avait même des gens qui avaient fait des compteurs pour savoir depuis combien de temps il n'y avait pas une faille Java qui était tombée. 2014, ça a été la cata avec Shellshock et Heartbleed. Bref, il y a quand même quelques soucis dans le monde du libre. Alors, le problème derrière, par exemple, si on prend le cas d'Orbid, OpenSSL, c'est quand même un outil qui est vraiment très, très utilisé à l'échelle planétaire. Les financements sont ridicules au regard de l'utilisation. Et évidemment, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait pas forcément de moyens pour la relecture du code, pour corriger, pour épurer le code, etc. Alors, il y a des gens de chez OpenBSD qui ont décidé de faire un fork qui s'appelle LibreSSL. Je ne sais pas si vous l'avez très bien choisi, mais bon, bref. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde ne peut pas forcément bénéficier. Il n'y a pas forcément un portage massif sur toutes les plateformes, y compris Windows. Donc il y a encore du. Ouais, mais il y a du. Enfin, je veux dire, des trucs éprouvés qui marchent bien. Voilà, non, mais c'est ce que je veux dire, c'est que ça prend du temps. Et du coup, pendant cette fenêtre de tir, on est un petit peu entre deux eaux, quoi. Faut pas oublier aussi qu'il y a beaucoup de solutions propriétaires qui utilisent des logiciels libres. Dire qu'aujourd'hui, la majorité des projets ne sont plus propriétaires, à 80% utilisent du logiciel libre. Donc du coup, l'impact, il n'est pas que sur le soft libre, mais aussi sur le soft propriétaire.
Et ça remonte aussi à,
je veux
dire, peut-être que ce soit open source, la vacance, c'est que c'est médiatisé, et c'est vrai qu'on en parle beaucoup, en fait, ce n'est pas les questions de données, mais bon, vous en avez aussi au niveau propriétaire, c'est pas forcément...
Alors, ça dépend lesquels. Hein.
Ouais.
Celles-là, elles étaient tellement énormes qu'elles impactaient tellement le monde, y compris le monde du proprio, que du coup, elles ont été très, très bien utilisées. Autre point, c'est je peux avoir confiance, il y a toujours quelqu'un qui relise le code source. Papa. Ça, c'est aussi c'est un mythe dans le monde du logiciel libre. Hein. Alors, ou presque, parce qu'il y a toujours les méchants pirates et puis les agences de renseignement qui lisent le code. Enfin, certainement. Bon, il y a aussi quand même des fois des chercheurs, des gens qui relisent le code, mais au regard de la masse de code qu'il y a, la relecture, elle est quand même négligeable. Alors, c'est vrai que certains me diront, ouais, mais chez BSD, alors chez FreeBSD ou OpenBSD, le code il est bien relu, etc. Mais là, ça parle d'un noyau. Il y a quand même, dans un système, il n'y a pas que le kernel du système, il y a tous les applicatifs qui vont autour et qui drainent évidemment tout un tas de problèmes. Donc ça c'est pareil, hein, dans le logiciel libre, les contributions, c'est comme les relectures, c'est souvent des légendes urbaines. Je ne sais pas s'il y en a qui font du logiciel libre, qui développent du logiciel libre parmi vous, mais vous savez que les contributions c'est toujours difficile, les gens qui relisent c'est difficile, les traductions c'est difficile. Enfin, ouais, on n'est pas dans un monde parfait. Autre problématique, la partie user experience. Ça, c'est bon, un peu bullshit pour dire tout ce qui est convivialité autour de l'utilisation des logiciels. J'aurais même tendance à dire que même dans le proprio, c'est pas mieux, mais si on veut que la sécurité pénètre mieux au sein à la fois des entreprises mais des particuliers, il faut avoir aussi des solutions qui soient faciles à utiliser. Ça, c'est un des gros problèmes. La cryptographie, c'est un des meilleurs exemples. Si vous prenez le Jean-Kévin Lambda qui est à la maison, qui veut chiffrer ses données avec un copain, ben, c'est pas trivial. Utiliser GPG, pour être honnête, même quand on est informaticien et qu'on a un peu de bouteille, c'est pas forcément user-friendly. Donc, ça, c'est aussi un des freins, à mon avis, à l'acceptation de certains outils en termes de sécurité. Et il y a du boulot derrière. Mais pourtant, alors c'est mon avis et je le partage, c'est quand même une condition nécessaire à la sécurité. Le simple fait que le code soit ouvert, ça va éviter que les gens s'amusent à mettre des backdoors faciles dans le code. Alors, vous avez tous entendu parler de la NSA qui avait demandé à Torvalds de backdoorer son kernel. Et puis, on n'est pas à l'abri d'avoir du code malveillant dans des outils. Par contre, évidemment, c'est plus gonflé de le faire sur du code libre, en tout cas du code où le source est accessible, parce que potentiellement, il y a des gens qui peuvent relire.
Et sur du propriétaire basé sur du libre,
les gens peuvent backdoorer de toute façon.
C'est ça. Ouais.
Ouais. Alors j'aurais même tendance à me mettre en mode parano on plus, en disant que je vais prendre par exemple un OS type Debian. Rien ne me dit que le package compilé que je vais récupérer en faisant un apt-get install, il ne va pas être backdooré par le mainteneur du package. Voilà, je suis en mode parano plus. C'est compliqué. Alors, autre point aussi important, c'est la transparence sur les algorithmes qui sont choisis. Notamment pour la crypto, c'est quand même pas mal d'avoir le source. Alors autour de la crypto, il y a aussi des gros débats en ce moment sur les cryptologues ne sont pas des développeurs et les développeurs ne sont pas des cryptologues. Bon, bref, ça c'est un vaste sujet, un vaste débat. Et c'est vrai qu'il va falloir à un moment donné qu'on arrive à relier ces deux mondes pour avoir de la sécurité en termes de cryptographie. Qui passe un niveau au-dessus. Alors, autre point qui me paraît positif, alors c'est vrai, c'est de plus en plus vrai, ça n'était pas il y a quelques années, il y a des failles Debian qui ont traîné pendant 6 mois, enfin bref, il y a quand même quelques cas. casseroles dans le livre sur le sujet, mais la réactivité est quand même au rendez-vous. On a vu sur Heartbleed et sur Shellshock, les gens ont été quand même très très réactifs pour proposer des patchs. Quand vous maintenez les parcs avec de nombreux serveurs, c'est quand même toujours sympa d'avoir des gens qui réagissent au plus vite. Alors, sur Shellshock, on est bien d'accord, hein, ça ne s'est pas fait en un seul fixe. Hein. Il y a eu de multiples mises à jour. En plus, les gens n'étaient pas d'accord sur les mises à jour. Bon, bref, il y a eu des alternatives, on va dire. Mais en gros, les choses ont convergé vers une solution correcte. Jusqu'à preuve du contraire. Par contre, il y a beaucoup d'outils libres pour la sécurité. Ça, c'est un point important. Pour ceux qui font de la sécu à la fois défensive ou offensive, il y a pléthore d'outils pour faire tout un tas de choses, du pentest, de la protection. Donc là, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour d'horizon sur les outils qui existent. J'ai fait ça, on va dire, un peu de mémoire d'outils que soit j'ai rencontré, soit j'ai entendu parler dans des confs. Et vous allez voir, il y a vraiment des bons outils, mais il y a aussi des outils qui manquent encore de maturité, et puis ou des outils proprio qui sont largement meilleurs. Alors, dans l'analyse de malware, bon, c'est un truc qui est quand même très spécifique, hein. C'est pas tout le monde qui s'amuse à faire ça. Il y a des frameworks comme Viper, Ellie, Malware. Et puis surtout, dans le monde de la sécu, il y a plein de gens qui font des distribs, des OS, pardon, prêts à l'emploi, qui vont faire du pentesting, de l'analyse de malware, du forensic. Donc ça, c'est déjà c'est assez bien, parce que vous avez une bonne compile d'outils qui sont mises à disposition. Alors évidemment, il faut savoir les utiliser derrière, mais au moins, vous avez déjà la compilation qui est bien centralisée. Bon, Remnux, ça en fait partie pour faire du reverse engineering de malware. Bon. Par contre, s'il y en a qui ne comprennent pas ce que je dis sur certains termes, vous me le dites. Alors justement, pour le reverse engineering, il y a des outils comme Miasm ou Radar 2, donc c'est pour désassembler du code, faire de l'analyse de code obfusqué, ce genre de choses. C'est des outils libres, français. Miasm, je crois que le développeur est français. C'est pas toujours facile de prendre en main ces outils-là, mais une fois que. C'est quand même des outils qui sont assez efficaces pour faire du reverse. Par contre, il y a des outils proprio comme IDEA Pro. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Donc, c'est un outil de désassemblage, notamment avec des plugins type X-Ray, qui sont des outils qui vous prennent du code assembleur et qui vous retranscrivent derrière en C pour une meilleure compréhension du code. Il y a plein de plugins en plus dans IDEA Pro. Bref, c'est du proprio. Donc là, c'est pareil, il y a quand même une grosse différence entre un. Bon, par contre, le prix d'IDEA Pro aussi pique un peu. Hein. La licence, elle n'est pas donnée. Pour la partie forensique, donc ça c'est on va dire les analyses post-mortem des machines qui auraient un peu souffert d'une attaque ou utilisées par des experts judiciaires pour traquer le pédophile. Vous avez un système qui s'appelle DevClinux, qui est une référence en la matière, avec des outils dedans comme Skullkit. Il y a du support d'Android et d'iOS pour faire des dumps de la mémoire quand on y arrive. Et des outils, là c'est par exemple Photorec et Testonis, c'est un français, Christophe Douanier, qui a fait ça, qui permet de faire de la récupération de data qui aurait été effacée. Alors ça ne sert pas qu'au forensic, hein. Si vous avez effacé vos photos sur votre carte SD de votre appareil photo, ça peut servir. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois pour des gens de mon entourage de récupérer les photos, et c'est un très très bon outil. Donc il y a aussi des outils comme Formos, et j'ai mis DD pour rigoler, mais DD c'est dérivé, pour faire une recopie physique de vos disques pour les analyses, on va dire, en dehors de la machine.
Et sur Android, iOS, je ne vois pas ce qu'on peut faire. C'est la même question.
Ah, il y a des outils pour justement aller soit dumper des disques ou des choses comme ça. Ouais. Bon, je suis pas un spécialiste, hein, mais j'ai vu qu'il y avait des outils qui utilisaient ça. Alors le pentesting, c'est là où on trouve énormément d'outils qui sont plus ou moins gros. Hein. Il y a souvent des petits outils qui existent, qui vont faire une chose, très bien. Alors déjà, au niveau système, il y a Kali Linux, et notamment il y a même un portage qui a été fait sur Raspberry Pi pour si on veut embarquer. Alors par contre, ceux qui voudraient tester par exemple Metasploit sur Raspberry Pi, je vous le déconseille. Ou alors je vous lance le lundi, puis vous avez le prompt le vendredi. Parce que c'est tellement lourd à lancer que c'est juste inutilisable. Nmap, pour tout ce qui est Network Discovery, ça c'est vraiment l'outil par excellence, qui est utilisé aussi bien pour la mine réseau que pour l'auditeur. Metasploit, donc ça c'est pareil, hein, pour faire ça c'est un gros framework en Ruby pour faire des tests d'intrusion. Le WASP produit des outils comme ZapProxy. Donc ZapProxy, ça peut permettre de faire par exemple des attaques man in the middle pour pouvoir par exemple injecter du code à la volée, des choses comme ça. Alors il y a un outil qui s'appelle Burp Suite, qui est un outil proprio qui est aussi très très bon, avec une version, on va dire, gratos et une version payante avec plus de fonctionnalités. Souvent, dans le monde de la sécurité, les gens vont utiliser plutôt Burp Suite parce qu'il est vraiment, très très. Mais bon, ZapProxy, ça marche bien si vous voulez faire des petits proof of concept, notamment pour tester. Moi, je l'avais utilisé à une époque pour vérifier que des certificats étaient bien vérifiés, justement, sur une appli de téléphone. Voilà. SSL strip, donc ça c'est pareil, c'est pour manipuler une SSL. Mimikatz, alors là c'est un outil Windows, purement Windows. Donc là vous allez pouvoir récupérer tout un tas d'informations comme les logins, mot de passe, faire du passe-the-hash. Pour ceux qui ne savent pas, passe-the-hash ça permet de s'authentifier sans avoir de login et de mot de passe. Ça va utiliser les mots de passe hachés dans Microsoft pour s'authentifier sur les serveurs. Volatility, c'est un outil aussi qui permet de faire de l'analyse mémoire, d'un doc mémoire. Vous allez pouvoir extraire tout un tas d'informations, comme les mots de passe, ce genre de choses. Donc AirTrack, le fameux AirTrack, pour casser le Wi-Fi, hein, pour faire des audits Wi-Fi, pour ceux qui utiliseraient encore du web, du WPS. Donc il y a des outils derrière aussi pour le WPS. Après, on a, alors ça c'est W3F, Nikto et Arachne, c'est plutôt des scanners de vulnérabilité pour des sites web. Donc ça c'est pareil, c'est des outils qui sont pas mal. Alors il y a des outils, équivalents proprio, je ne me souviens plus du nom, mais qui sont aussi très très bons. Voilà. Alors il y a des fois, la prise en main de certains n'est pas toujours évidente. Après, pour faire du cassage de password, ben, on a OffCrack et puis John the Ripper, classique. Bon, il y a aussi d'autres outils proprio comme. Je me souviens plus du nom. OCLH4, qui vont, par exemple, utiliser des cartes graphiques et ce genre de choses pour casser les mots de passe plus vite. Alors, j'en profite juste pour faire une petite digression sur les stockages des mots de passe, mais vous savez peut-être pas, il y a plusieurs technos pour stocker les mots de passe, enfin les hachés, du MD5 qu'il ne faut pas utiliser en gros, script. La tendance c'est d'essayer de stocker ça en format script pour plein de raisons, et notamment une des raisons c'est que les cartes qui cassent les passwords de manière massive ne peuvent pas casser facilement du script pour des raisons de mémoire Et puis aussi, pour des raisons d'itération, j'avais fait des tests entre un MD5 salé, avec un salt, et du Scrypt, c'est un rapport de plus de 100 000. C'est-à-dire que quand vous calculez 100 000 MD5, vous n'en calculez qu'un seul Scrypt. Donc du coup, ça vous ralentit. Ça ne va pas vous garantir de ne pas bloquer le brute force, parce que on ne pourra jamais l'empêcher. Par contre, ça permet par exemple d'avoir un peu plus de temps pour faire en sorte que les utilisateurs aient le temps de changer leur mot de passe. Jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui trouve un ASIC qui va bien, qui va casser le SQL. En termes de radio, on a pas mal de trucs pour faire un peu d'espionnage, de reverse engineering, d'outils. Donc par exemple, il y a une board qui s'appelle AKRF, qui permet en gros de faire du scan radio et avec des outils comme GNU Radio, par exemple, derrière. Vous allez pouvoir faire à la fois de l'analyse de signal, mais essayer de récupérer des informations dans le signal. Alors, il y a un autre outil d'analyse qui s'appelle NetZob aussi, qui est développé par des Français. Enfin, d'analyse de protocole. Un autre projet qui s'appelle Bertus aussi, qui permet de faire du sniff sur le Bluetooth, et notamment avec la version Bluetooth LE, récupérer des informations qui seraient, que les fameux objets connectés balancent à tour de bras. Et puis RFIDIOT, donc ça c'est tout ce qui est RFID, notamment le NFC. Alors en scanner de vulnérabilité, on va dire un peu lourd, on a OpenVAS. Alors pour ceux qui ne savent pas, historiquement, OpenVAS c'est un fork de Nessus. Tenable Security a arrêté Nessus en mode libre il y a quelques années en arrière, parce que alors la raison qui a été évoquée, c'était les concurrents utilisaient Nessus libre pour proposer des offres similaires avec zéro coût de développement. Donc du coup, ils ont décidé de passer l'outil en propriétaire. Alors, pour être honnête, j'ai utilisé les deux, OpenVAS et Nessus, et pour être honnête, il n'y a pas photo, Nessus est quand même nettement meilleur, pour plein de raisons. Déjà, en termes d'utilisation, c'est quand même un peu plus convivial. Et en termes de résultats aussi. Voilà. Bon, après, c'est toujours pareil, il faut comparer ce qui est comparable, parce que je n'avais pas non plus souscrit à des feeds. Parce que, enfin, vous ne savez peut-être pas, mais dans ces outils-là, dans OpenVAS, vous pouvez souscrire à des vulnérabilités qui seraient payantes. Vous téléchargez des plugins qui, eux, sont payants. Et évidemment, on n'a pas, entre l'abonnement chez Nessus, vous avez vraiment ces plugins payants, et l'autre, vous n'avez que les plugins gratuits, il y a forcément un état. Mais même en termes d'utilisation, en termes d'installation aussi, c'est vraiment hyper lourd à installer. L'anonymisation, parce que c'est un grand sujet, un grand débat en ce moment. Alors là, j'aurais pas dû faire ce slide, parce que là, la NSA va être après moi. Donc, il y a Tail, qui est un OS qui se repose sur une Debian, avec tout un tas d'outils qui vous permettent de vous connecter à Tor, de rajouter de l'anonymisation dans votre Firefox. Enfin, là, c'est notre IceWazel qui est utilisé, ou un équivalent. Donc voilà, donc ça, elle est connue, parce que c'est ce que Snowden utilisait pour dialoguer avec les journalistes. Et elle a été notamment connue, parce que comme il est recommandé d'utiliser Tail, c'est que la NSA n'avait pas encore mis le nez dedans, ou très peu. Alors la crypto, il y a... Ouais, c'est dommage. La crypto, il y a l'UDG que tout le monde connaît, avec aussi ses problèmes connus. Notamment, c'est pas toujours évident à utiliser. Alors moi, je suis assez Linux, donc je connais plus Lux et DNcrypt pour chiffrer. Le problème du full disk encryption, c'est-à-dire le chiffrement complet d'un disque sur les OS, c'est que si vous prenez, un Linux par exemple, en gros vous chiffrez tout sauf le kernel, parce qu'il faut qu'à un moment donné la machine boot. Le problème c'est qu'à un moment donné, si on vous pique la machine et qu'on vous backdoor le kernel, vous pouvez vous faire piquer la passphrase, donc ça c'est le premier truc. Alors vous allez me dire, je peux booter avec une clé USB, donc c'est pas très sympa. Après on peut se dire qu'on peut utiliser les DRM qui sont dans les machines. Alors, déjà tout le monde n'a pas les TPM, excusez-moi. Les TPM dans sa machine, et puis en plus de ça, il faut vraiment avoir confiance dans la TPM. Hein. C'est pas comme si les BIOS étaient backdoorés, ce genre de choses. Et après, il y a tout un tas d'outils pour faire du SSL TLS, comme OpenSSL, LibreSSL, PolarSSL, ce qui est beaucoup moins connu, et puis GNU-TLS. Après, on a tout ce qui va être outils de détection, d'intrusion et IPS. Donc, on a Snort, Suricata. Alors, je vous recommande d'utiliser Sext, qui a été fait par Eric Leblond, qui est en fait un OS Linux avec Suricata, Elasticsearch, Kibana et puis Logstash, avec tout de réglé, tout un progrès. C'est assez bien fait. En firewall, on a du IPTables, NFTables, PacketFilter, IPFW, et OpenOffice. Ici, ça marche. Le fameux Eric Leblond l'a fait. Ouais, avec Netlink, il a fait un truc dans OpenOffice pour filtrer les paquets. Bon, bref. Comme quoi, de banal. Après, on a tout ce qui va être Web Application Firewall. Donc avec les deux trucs bien connus dans le monde du geek qui sont mode security d'Apache et puis Maxi. Comme proxy, on va avoir HAProxy, donc ça c'est un truc qu'on utilise énormément en France. Notamment ça va bloquer les attaques type Slow Loris, qui sont en gros des denis de service sur Apache. En termes d'analyse de log, parce que c'est toujours important d'analyser ces logs, je vous ai parlé d'Elasticsearch, Kibana et Logstash qui sont des très bons outils. Et puis il y a OSEC, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un outil qui va faire qui est Open Source Simple Event Correlator, qui va faire de l'agrégation d'un certain nombre de logs et qui va détecter des potentiels d'intrusion ou remonter des attaques de déni distribué, ce genre de choses. C'est en mode host-IDS. Après, pour la réplication des données, on a des outils comme DRBD, par exemple, RSync, parce qu'on peut faire aussi de la synchro, il y a des sons, il y a tout un tas d'outils. Alors après, ça dépend du niveau de synchro dont on a besoin. Pour le backup, c'est pareil, il y a des outils comme Backup PC qui marchent très bien, Bakula ou RSync, on peut faire du backup avec RSync. Alors c'est toujours pareil, derrière il faut mettre un peu des moyens pour que ça marche bien. Quoi. C'est pas j'ai rsync et puis j'ai mon backup qui marche. Quoi. J'ai des scripts qui font que mon rsync va backuper les données. En termes de supervision, il y avait mon prédécesseur qui était là, qui a parlé de Centréon, mais Nagio, Centréon, Isinga, alors je sais pas, Nagio, j'ai cru comprendre qu'il y avait un changement de licence, je ne sais pas ce qu'il en est, je n'ai pas trop suivi. Antivirus, je crois pas toujours dans l'efficacité des antivirus, mais ClamAV fait à peu près son job en général. Je préconise plutôt en guise d'antivirus des bonnes politiques de sécurité, c'est toujours plus efficace. Après, la virtualisation, l'isolation, alors ça c'est pareil. À chaque fois que je dis quelque chose, on pourrait dire « Ouais, mais non, il y a des problèmes là-dessus, machin, machin. » Ça rajoute des problèmes aussi. Le fait, par exemple, d'avoir une évasion d'une machine virtuelle dans le host, c'est super dangereux, c'est gros risque. Mais de manière globale, l'avantage de la virtualisation, c'est qu'on va pouvoir isoler un peu plus facilement les process et du coup, si on se fait, on va dire, poutrer son Apache, on n'aura peut-être pas forcément le MySQL qui tourne sur la même machine. Voilà, ça c'est. Donc là, il y a pléthore de virtualisation, ou d'isolation, ça va du BSDJ, Xen, KVM, LXC, ou le très médiatisé Docker. En termes de renforcement du système, donc on va avoir tout ce qui va être Mac et Airbag sous Linux. Alors, je parle de ce que je connais entre guillemets le mieux. Donc il y a SE Linux. Alors pour ceux qui ne savent pas, ça a été fait par la NSA. Et c'est ce qui est intégré nativement dans le kernel. Après, il y a GR Security qui est un autre mode qui utilise un autre mode de sécurité en utilisant des rôles. Et donc là, lui, il n'est pas intégré. Il n'est pas intégré, mais par contre, il semble être, en tout cas dans la communauté des gens qui font de la sécu, avoir une bonne presse. Il y a PPArmor qui se veut être en gros le concurrent des SE Linux plus facile à utiliser. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, parce que quelque chose qui est compliqué à régler, ben c'est quelque chose qu'on ne va pas régler ou qu'on va désactiver. C'est le principe fondamental, c'est quand on fait de la mine, c'est ça, ça me gonfle au départ. Plus les outils sont faciles à s'approprier, plus c'est facile à mettre en œuvre. Et puis un OS qui s'appelle QOS, je ne sais pas si vous connaissez, donc le prénom c'est Johanna, je ne sais plus comment, enfin là. Qui a lancé ce projet-là, et donc là, elle utilise en gros un système où toutes les applis tournent dans une machine virtuelle. Il y a une isolation complète appli par appli pour éviter les rebonds d'une appli à l'autre. C'est une espèce de sandboxing, on va dire, un peu, pas grossière, mais en tout cas un peu plus long. Alors je crois que c'est basé sur DPKI, donc les systèmes de gestion de clés. Donc il y a OpenCA, EJBCA. Après, il y a un petit outil qui s'appelle VFID qui vous permet d'aller récupérer toutes les alertes de sécurité que le gars vient de vous supporter. C'est un Français qui est exporté à Miami qui fait ça. Donc ça permet de faire un peu de veille sécu sur son parc, c'est pas mal. Et vous pouvez après vous faire une liste de vos softs et des versions, puis faire un lien croisé entre ce qui tombe et puis ce que vous avez. Après, on a tout ce qui est Network Access Control, on a Packet Fence, qui est aussi un outil qui permet de faire l'authentification sur le réseau, avec du Radius derrière, ce genre de choses. Pour ce qui est DNSSEC, et ben on a OpenDNSSEC. Donc, ceux qui voudraient signer leur zone, il y a un outil qui s'appelle OpenDNSSEC. Ça, je l'ai déjà dit. Les VPN, on a des outils comme OpenVPN, qui utilise du SSLTLS. Et puis, pour ce qui est de l'IPSec, on a FreeSWAN, OpenSWAN, qui sont des outils que, par exemple, j'ai utilisé en production pendant des années et qui font bien leur jeu. Pour ce qui est de l'utilisation du web et de la vie privée, personnellement, je recommande Firefox plutôt qu'un Chrome. Ou au pire un Chromium, il vaudrait mieux utiliser Chromium que Chrome. Pourquoi? Parce que, vous savez peut-être pas, mais Chrome c'est Chromium plus quelques trucs de Google dedans, dont on ne sait pas ce que ça fait. Donc après, à vous de voir en termes de confiance que vous préférez. Donc il y a plein d'extensions qui existent, qui sont faites par l'Electronic Frontier Foundation pour forcer l'HTTPS systématiquement, pour enlever tout ce qui est tracking, il y a tout un tas d'outils, les anti-pubs et ce genre de choses qui vous permettent de vous traquer. Donc ça, il y a du boulot. En gros, quand on installe son Firefox, il y a au moins une demi-douzaine de plugins à installer en plus pour pouvoir être un peu tranquille. Un trousseau de mots de passe, parce qu'en général, les gens collent leur mot de passe partout le même, avec le même login sur tous les sites sur lesquels ils vont. Donc du coup, quand ils se font piquer leur compte, ils font piquer leur compte partout. Donc il y a un truc qui s'appelle KeepAssX, qui est très bien, qui marche sous macOS X, sous Linux, sous Windows. Donc l'avantage, c'est qu'en plus, quand, si vous passez d'un système à l'autre, vous pouvez relire sans problème le fichier. Donc c'est enfin, moi, je conseille fortement ce genre d'outil. Alors après, il y a des manques, notamment tout ce qui est OSINT, donc Open Source Intelligence. Il n'y a pas d'équivalent de Maltego, d'un véritable outil un peu lourd. Donc l'OSINT, c'est en gros, je vais prendre des données qui sont sur le net, pas forcément sur le web, hein, ça va soit taper dans des moteurs de recherche, soit sur LinkedIn, soit sur Facebook, soit dans les données Wiz, ce genre de choses. Et puis ça va vous agréger toutes ces données. Donc, par exemple, vous faites une recherche sur une personne, et après, ça vous fait des jolis graphes de relations entre ces personnes et des IP et des sites web et ce genre de choses. Bon, ben ça, dans le monde du livre, il n'y a pas grand-chose de performant. Pour avoir testé Maltego, en gros, il n'y a rien. Et puis un outil comme Focache, je ne sais pas si vous connaissez. Donc ça, c'est un truc qui marche uniquement sous Windows, qui vous permet d'aller récupérer des informations sur un site. Alors, pas que, hein, ça fait plein de choses maintenant en plus, mais par exemple, ça va vous récupérer tous les PDF d'un site, vous extraire les PDF, les docs, etc. Ça va extraire les métadonnées et vous sortir des informations qui pourraient vous aider pour faire une attaque, soit en social engineering ou autre, sur une personne en particulier ou une entreprise. Donc là, c'est pareil, il y a quelques outils, mais c'est pas aussi bien intégré, pas aussi, on va dire, automatisé. Et puis bon, moi, j'ai parlé hein, d'OpenVAS versus Nessus ou Qualys, hein, qui sont pas encore, qui manquent un peu encore de convivialité. Alors en conclusion, donc la sécurité des logiciels n'est pas mieux que celle des logiciels propriétaires, il y a une faute. Ben oui, c'est pas, y a pas de monde parfait. Voilà, c'est comme ça. Faut pas se dire que c'est sous prétexte que c'est libre, que c'est top secure. Non. Mais bon, faut le savoir, c'est déjà bien. Et pour moi, c'est malgré tout quand même un gage de confiance d'utiliser du libre plutôt que du proprio. Pour la pure et simple raison, c'est que même si personne ne le fait, on a quand même la possibilité de relire le code en gros. Et comme je vous l'ai montré, il existe de nombreux outils libres. Je ne pense pas avoir montré 1% de ce qui existe, hein, mais je vous ai montré un panel de ce qu'on pouvait faire. Et surtout, je rappelle, parce qu'on parle des outils, mais la sécurité, c'est avant tout un problème de processus, avant un problème d'outils. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. On est terminé. Même pas un peu de débat. Oui.
Bah par exemple, dans les derniers, c'est pour ça. Firefox, plus quelques extensions, lesquelles seraient conseillées, parce que bon, par exemple, il y a le débat Ghostory qui.
Ouais. Ben, il y a le truc de Electronic Frontier Foundation. C'est un Beaver, un truc comme ça. Qui fait plus ou moins la même chose. Ils ont sorti un plugin, je ne me souviens plus du nom. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est Beaver. Ça, un blaireau en anglais, c'est bien Beaver. C'est ça. Donc ouais, il y a plein de choses. C'est au même titre qu'il y avait une polémique autour de AdBlock. Donc il vaut mieux utiliser. C'est quoi ça? Un bloc light, comme ça.
Il y a Edge et Light.
Ouais.
Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi, dans la liste des outils de sécurité, rajouter certaines des choses communes qui sont quand même surtout dans le domaine libre, autour des compilateurs, des.
Oui, alors je.
Pour aider à la fabrication de logiciels.
Tout à fait. Alors, j'ai pas parlé de ça, j'ai oublié. Il y a des analyseurs de code statique, notamment des analyseurs qu'on va pouvoir mettre par exemple dans Sonar, Il y en a un qui est sorti, il y a un plugin qui est sorti de Sonar, je ne sais pas si certains connaissent Sonar, mais, donc ça, ça permet de faire de l'analyse de code de qualité, ce genre de choses. Et il y a un plugin qui est sorti il n'y a pas longtemps, justement pour faire des tests de sécurité. Alors après, il y a, au niveau des compilos, il y a LLVM qui fait des choses. Il y a des outils, effectivement, et effectivement, vous avez raison, on devrait commencer par ça. Quoi.
C'est aussi là qu'on voit des avantages du logiciel libre, c'est qu'on peut utiliser ces outils pour sur des cibles dont on dispose de bien le propriétaire en proximité avec du post-testing ou des choses où, en boîte noire, finalement, on ne fait pas grand-chose de précis.
Ouais. Alors, tout à l'heure, j'ai oublié, il y avait un point aussi, j'ai oublié de dire les objets connectés en termes de confiance. Alors bon, c'était un petit peu mon boulot pendant 2 ans. C'est pareil, là il y a du boulot, il y a des trucs qui ne sont pas à jour. C'est carrément un peu l'orgie. Les gens n'ont pas vraiment envie de mettre à jour. Vous prenez par exemple ne serait-ce que Netgear, quand ils ont des routeurs. Pas à jour, enfin, quand ils ont décidé qu'il y avait une fin de vie, alors en dehors du fait qu'ils ont adoré leur truc, voilà, mais le routeur, vous l'achetez en un an et demi, l'OS il est plus supporté, il est plus mis à jour. Moi j'ai vu, parce que j'ai étudié un peu quelques caméras vidéo, on se retrouve avec des kernels Linux qui ont plus de 10 ans, qui sont plus maintenus, bref, l'internet des objets, bah, alors, et en plus, enfin, derrière ça, ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas mal de logiciels dedans aussi. Et donc, et pour vous revenir au code, oui, ça, c'est, je dirais que c'est l'essence même de ce qu'on devrait faire, c'est déjà commencer pour produire du code source propre.
C'est quoi ce plugin Sonar dont vous parliez ?
Ah, je ne sais plus, je l'ai retweeté il y a quelques temps en arrière. Je vais vous refiler, je regarderai, mais je... D'autres questions ?
J'ai déjà débordé pas mal, il y avait le temps pour ranger après la vidéo pour la pause.
Pas de soucis.
Donc, je te remercie.
Thank you.